l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Kayrouga. Nadim Godban, bonjour.
Bonjour.
Tu es auteur, militant écologiste et engagé dans une confrérie soufie qui dépend de l'islam.
Oui, on peut considérer que le soufisme est le cœur de l'islam. C'est un cheminement spirituel très ouvert et très humaniste.
Donc tu as souhaité participer à un débat sur l'écologie et les religions. Tu as été invité là dans le cadre de ce contre-sommet lié au G7 qui a lieu à Biarritz cet été pour parler de quelque chose qui te touche énormément, c'est cette question écologique.
Oui, surtout ce qui me motive, c'est notre relation à la nature, à l'animal, à l'homme, et de remettre du sens dans toutes ces relations, re-spiritualiser en quelque sorte nos relations à l'autre, à l'animal, à la nature.
Alors tu es auteur, tu as écrit différents livres, on va en parler au fur et à mesure de cet entretien. Mais d'abord, on peut dire que toi, tu t'intéresses à ce qu'on peut appeler l'écologie intérieure. Finalement, c'est ça, c'est notre propre rapport à l'environnement, à l'écologie qui t'intéresse.
C'est tout à fait ça. C'est retrouver la nature qui est en nous. Et le monde moderne, le monde consumériste, a brisé ce lien en nous déjà. Et ma motivation, ma démarche, c'est d'essayer de retrouver cette nature qui est en nous. C'est le miroir de la nature qui doit refléter en nous. Je crois qu'il y a des dates, on peut dater ce décrochage. Je vais citer René Guénon, un grand mystique, un grand penseur français, soufi. Et il date ça à peu près du siècle des Lumières, à partir du moment où le sacré ne fait plus partie de la vie quotidienne, le décrochage se fait à ce moment-là. Et ce qui nous emmène au temps moderne est le manque de sens dans nos vies.
Alors voilà, donc toi, dans les livres que tu as écrits, tu parles beaucoup de cette question du sens. Pour toi, c'est là le problème de notre civilisation, en fait.
J'ai milité dans des partis politiques et force est de constater que l'écologie politique va dans un mur. Je ne vois pas de finalité. Par contre, si on prend le problème intérieurement plus spirituel, il me semble qu'on peut changer les choses et le monde. Le combat écologique d'un point de vue politique est... Comment dire, il est perdant d'avance. Parce qu'il utilise les outils de la domination capitaliste. En prenant le problème inverse, en partant de l'individu, mais surtout de son intériorité, on peut changer les choses. En mettant du sens dans nos relations aux autres. Et non plus des jeux de pouvoir qu'on peut retrouver dans des partis politiques.
Ce qui ne veut pas dire que tu ne prônes qu'un mode d'action qui soit uniquement individuel.
Non, bien sûr, au contraire. Il faut s'enrichir intérieurement pour pouvoir être efficace extérieurement. Voilà.
Alors, donc, si on retourne sur cette question de l'écologie intérieure, finalement, pour toi, c'est lié à une perte de sens avant tout ?
Il me semble, oui. À la base, à la source, oui. Dès qu'on est sorti de ce sens de la vie, de nos vies individuelles et de nos vies collectives, là, on va droit dans le mur et on part dans une consommation effrénée, pensant croire qu'on va combler ce vide existentiel alors que c'est que de la consommation. Quand je dis spirituel, c'est dans le sens le plus large possible que je l'entends. En fin de compte, c'est une voix du cœur à laquelle je fais référence. De l'amour du prochain, l'amour de la terre, de la nature.
Comment on peut retrouver ce sens ?
En resacralisant nos vies, peut-être. En sacralisant le moindre geste du quotidien, on peut retrouver le respect de ces choses. Mais là, j'ai des exemples, mais ça va être dans ma religion. Par exemple, si je vais prendre l'exemple de la prière musulmane, tout le monde a déjà vu prier une musulmane, un musulman. Les positions, les postures ont une signification bien particulière. Quand le musulman s'adresse à Dieu, il s'adresse au nom de toute l'humanité, mais au nom de toute la création. Et les postures disent cela. Quand, alors il y a la posture debout, l'inclinaison, la génuflexion, et pour terminer le cycle, la prosternation. La position debout, c'est pour, symboliquement, représente l'humain, mais aussi les montagnes. L'inclinaison, le règne animal, la prosternation, le règne végétal, la génuflexion, le règne animal, et la prosternation, le règne minéral. Et c'est à ce moment-là, au moment de la prosternation, qu'on fait corps avec la terre. Quand cette manipulation est faite en conscience, ça prend une dimension formidable.
En conscience, on peut faire à peu près tous les actes de la vie quotidienne sans forcément non plus appartenir à une religion. En fait, prendre conscience de ce qu'on fait au moment où on le fait, mais ça peut passer par, des choses de la vie quotidienne telles que faire le ménage, la vaisselle.
Bien sûr, tout à fait. Dire bonjour à quelqu'un ou ne pas lui dire bonjour peut changer le monde présent du moment. Et c'est dans ces petits gestes que, si on y met une conscience positive, entre guillemets, on change le monde à ce moment-là.
On voit aussi des nouveaux mouvements qui apparaissent, qui sont complètement, comme Pierre Rabhi, déconnectés a priori des religions, mais qui retrouvent du sens et qui créent une sorte de religion autour de l'écologie en allant chercher des esprits dans les plantes ou des choses comme ça. C'est quelque chose, ça, qui a l'air assez moderne.
Oui, c'est un peu en vogue. Hein. C'est un peu dans ces dernières années, on a vu le New Age arriver. Qui s'est débarrassé de beaucoup de choses en gardant que le positif croyant de ces traditions. Mais ce que je voudrais dire, c'est que même les traditions anciennes, les religions monothéistes, ont cette teneur aussi. Je suis méfiant d'une pratique spirituelle ou autre qui ne soit pas attachée à une tradition qui a fait ses preuves. Toute démarche qui n'est pas émancipatrice de l'individu, on peut s'en méfier.
Parce que finalement, toutes ces actions de développement personnel, c'est ça, c'est des gens qui sont en quête de sens, qui font ça, et finalement, ça contribue à respiritualiser face à la nature, donc c'est plutôt bénéfique.
Bien sûr, la démarche est bénéfique, elle est positive. Simplement, je dis, faisons attention, ne jetons pas la pierre aux religions traditionnelles. Elles ont un bagage culturel. On peut s'y ressourcer sans s'y enfermer de façon sectaire. Et je ne suis pas sûr qu'inventer quelque chose hors sol soit vraiment intéressant. Je crois à la force de l'intention. Tout est dans l'intention de ce qu'on va faire. C'est une énergie, l'intention. La méditation, l'intention, la prière sont des énergies qui positivent nos vies.
Alors justement, peut-être des clés pour retrouver du sens et se reconnecter à la nature, c'est d'avoir un rapport au temps et à l'espace différent. Reprendre le temps d'observer, de ressentir, de regarder. Finalement, ça ouvre des portes vers cette reconnexion à la nature.
C'est ce qui est le plus difficile, en fait. Hein. Être présent à l'instant, ne plus être hier et ne pas être encore demain, c'est ce qui est le plus dur. Et le bonheur, il est là. Il est là, dans l'instant, conscientisé et vécu à l'instant T. Quand on va à l'essentiel, on se retrouve. D'où qu'on vienne, quel que soit le costume qu'on porte, si on va à l'essentiel, on se retrouve. On dit la même chose, on vit la même chose. C'est comme un arbre, toutes les branches vont au tronc. Et toutes les spiritualités, toutes les philosophies vont à ce tronc commun.
Alors du coup, pour parler d'écologie et de religion, toi, Nadim Ghodban, tu écris. C'est ta façon finalement de militer pour l'écologie, d'écrire des livres qui en parlent. Donc là, tu as apporté trois livres qui sont totalement différents. Est-ce que tu peux les présenter? Moi, ça m'a étonnée dans un recueil de poésie, un roman et un essai. Pourquoi cette diversité?
Parce que ce que je veux écrire, mais aussi la façon de l'écrire, sont aussi importantes pour moi. En fait, je suis en recherche. Hein. je prétends pas être écrivain, je suis un militant qui écrit. J'ai commencé à écrire des tracts, après un deuxième tract, et ça finit par être un bouquin. Mais l'essai, c'est surtout, je voulais donner un outil aux jeunes, essentiellement, pour enclencher une réflexion. J'ai pas de réponse toute faite. Méfions-nous des réponses toutes faites. Mais c'est un enclencheur de réflexion.
Alors du coup, si on explique un petit peu de ces différents genres, pour toucher la part intime de l'individu, parce que voilà, quand on est militant écologiste comme toi et qu'on écrit des livres sur l'écologie, l'environnement, c'est aussi dans un désir de transmettre et d'essayer de transformer le monde, certainement. Hein.
Mais présomptueusement, peut-être, oui. En tout cas, c'est pour offrir un outil à d'autres.
Bon, après, il y a aussi un instinct créateur. Il y a des mots qui sortent de toi et qu'il faut que ça sorte. Hein.
Oui, alors là, c'est essentiellement sur le recueil de poésie qui en fait, j'ai mis sur papier mes expériences méditatives. J'ai essayé de ce que j'ai vécu en méditation, j'ai essayé de le réécrire avec des mots.
Thank you. Donc cette façon de passer à travers différents genres de la littérature, donc un roman qui s'appelle Un soufi nommé Arthur, un essai qui s'appelle Une écologie intérieure et un recueil de poésie Pose mystique, ça permet de toucher cette sensibilité parce que transmettre un message au plus profond de l'intimité d'une personne pour justement arriver à le toucher sur sa part d'écologie intérieure, il y a différents moyens, mais un roman, ça ne va pas nous toucher de la même façon que des poésies, qu'un essai argumenté. Donc c'est très intéressant d'avoir exploré ces différents genres. Est-ce que ça a été difficile pour toi de changer de type d'écriture ?
En fait, non. Je travaille instinctivement. J'ai quelque chose en moi qui mûrit. Et au dernier moment, il faut que je le sorte et la structure va s'imposer. Comme le dernier, le personnage, on peut le reconnaître hein, par son prénom. C'est quelqu'un qui rejette la religion, mais qui a une recherche mystique. Je lui ai inventé un cheminement spirituel. Parce que dans ses œuvres, je ne dirai pas son nom, dans ses œuvres, il y a beaucoup de références au soufisme et à l'islam, qu'on ignore. Du coup, je lui ai inventé un chemin spirituel qui pourrait être vrai, mais qui pourrait être faux aussi, à chacun de...
Alors, dans les poses mystiques, donc c'est vachement intéressant, ça veut dire qu'en gros, tu étais en méditation autour de toutes ces notions d'écologie intérieure, tu as retranscrit ça par des mots, parce que la méditation, c'est quand même assez éloigné des mots. Quand on est en méditation... On est un peu déconnecté des mots, c'est des sensations en plus. Hein. Et tu as écrit des poèmes. Est-ce que tu peux nous en lire quelques-uns pour qu'on s'imagine un peu les états d'esprit dans lesquels tu étais pendant ces méditations ? Alors peut-être dans la nature d'ailleurs. Hein.
Mais en fait, c'est suite à un jeûne et méditation que l'inspiration est venue. J'étais en ville, dans ma ville. Physiquement, j'étais dans ma ville. Dans un milieu urbain, mais intérieurement, j'étais ailleurs. C'est ce que la méditation nous permet.
Le voyage.
Le voyage. Rêverie en escale, le reflux emporte les utopies. L'écume marque l'entre deux mondes. Jeté au fond de cale, je reste prostré, accroupi. Je me noie dans l'entre deux mondes. Étranger sur une terre étrange, étranger à soi dans cette vie, l'exilé à lui se retranche puis sort de la nuit.
Voilà, donc deux petits poèmes de tes poses mystiques urbaines en connexion avec la nature. Donc voilà, ça veut dire que quelque part, on peut avoir cette capacité d'être reconnecté à la nature partout, dans n'importe quelle condition, même en faisant quelque chose de dur, de pénible, on peut trouver du plaisir et se déconnecter totalement.
C'est ça le but, hein, la finalité de notre cheminement, de notre travail intérieur, c'est de pouvoir être en permanence ou le plus longtemps possible dans cet état, même dans des conditions les plus difficiles, être le miroir de la marque divine qui a chacun de nous.
On peut se dire que beaucoup de causes de guerre, de désastres environnementaux, sociaux, sont liées au fait que voilà, on est complètement déconnecté à soi et à la nature. Donc on invite finalement les gens à retrouver cette part d'eux-mêmes.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. L'homme est devenu hors de lui. Et c'est ça qui le fait devenir... autodestructeur. Et effectivement, nous recentrer à l'essentiel, nous recentrer au divin, cet axe invisible qui nous relie au ciel, il faut se recentrer. Et là, on trouvera la paix. Et là, on trouve la paix.
Alors, on peut dire aussi qu'il y a beaucoup d'optimisme dans ton message, parce que ces derniers temps, on entend parler du changement climatique, des catastrophes qui nous arrivent bientôt, qui sont déjà arrivées. Toi, au contraire, c'est un message d'espoir que tu donnes et des clés d'action par la méditation, par la philosophie, la réflexion. C'est une façon de concilier la réalité du monde, qui peut nous paraître assez triste, et un optimisme.
Oui, un monde est en train de finir. Il fait du bruit, il fait comme s'il n'était pas en train de finir. Un autre monde, il ne fait pas de bruit, est en train de naître. Je veux voir ce monde-là, celui qui est en train de naître. Il me plaît beaucoup, beaucoup mieux que celui qui est en train de mourir. Je suis foncièrement optimiste, parce que j'ai la foi. Comment garder la foi dans un tel monde ? C'est un peu la question qu'on devrait se poser. Quand on voit tout ce qui se passe, les guerres, les pollutions, la destruction de la Terre, il faut avoir une foi solide. Notre vie est que ce que elle est, de la façon dont on va la voir. Et si on veut s'engager, tous ces gens-là qu'on rencontre aujourd'hui à la Terre Gisèle, c'est formidable de voir cette énergie positive, alors qu'ils ne sont pas tous croyants. Et là, il sort quelque chose de positif. Et c'est ça qu'il faut voir.
Après, on peut dire que parfois, dans ces grands rassemblements altermondialistes ou écologistes, on peut avoir l'impression d'être un peu à la messe. Hein.
Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? C'est vrai qu'on aime se rencontrer et s'automotiver, et voilà, faire le point en quelque sorte. Et pourquoi pas la grand-messe, pourquoi pas ? Mais c'est bien de temps en temps se retrouver et dire, voilà, je ne suis pas seul dans mon coin à faire ce que je fais. D'autres le font ailleurs, d'une autre façon. Je m'enrichis par leurs expériences. C'est formidable, c'est formidable. Je préférais qu'il y ait plus de rassemblements comme ça.
Alors Nadim Godman, si on veut lire tes livres, donc c'est les éditions du Net et Edi Livres. Là, il y a trois livres qu'on a présentés, donc Pause mystique et Un soufi nommé Arthur, donc aux éditions du Net, et Une écologie intérieure à Edi Livres, mais tu en as écrit d'autres.
Oui, j'ai écrit Islam et écologie, et aussi pour un végétarisme musulman. Un autre recueil de poésie, Fragments de vie, une pièce de théâtre, Lève-toi de ton sommeil. Je me suis inspiré d'un texte qu'on trouve en islam et dans le christianisme. C'est les sept dormants d'Éphèse. C'est un beau texte qui donne beaucoup à réfléchir sur notre façon de réagir à la violence, la passivité, la lutte non violente. C'est vraiment intéressant. J'ai écrit aussi chez l'Harmattan, deuil, rite funéraire et deuil dans l'islam français. C'est un problème aussi, je me suis occupé dans mon histoire de militant.
Et alors pour dire, tu fais partie du mouvement qui s'est réuni ce matin au contre G7, où tu as des liens avec les différentes confessions ?
Oui, j'ai dans ma ville un groupe de partage islamo-chrétien, on l'a appelé comme ça, avec un ami prêtre. On se rencontre une fois par mois, on échange. Nos échanges peuvent aller très loin, mais surtout, on prie ensemble, chacun dans sa tradition. On n'essaie pas de convertir l'autre, on est toujours dans le respect. Et j'avoue, dans ce groupe, j'ai vécu des moments formidables. Rarement, j'ai vécu avec l'autre de tels moments, plein d'émotions, plein de sincérité, plein de profondeur.
Eh ben, merci beaucoup Nadim Godman, et bonne continuation alors dans toutes tes écritures.
Merci à toi, merci à vous. I enter the Colosseum to
face my foe. Analyzing his aura and his physical form from head to toe. Ancient warriors such as I long ago reached a level of master. If this child survives, he too will earn the rite of passage. I'm armed with mathematics, truth, knowledge, wisdom, and destiny. In my heart, there's little pity for this fool that tests me. This confrontation is witnessed by the crowd. However, it's lights out when the queen puts her thumb down. See now, all those years of extreme study are the only thing to keep me from being a stream that's bloody. I stare carelessly into the eyes of my adversary, hoping his family has decided where he is to be buried. Daily I pray for forgiveness for the murderous sins I've committed. The spectators were absorbed into my pores and sinew. Part of the reason this ritual of war continues. Once I was a young boy, such as the one I'm about to destroy. But in the arena, either you're a man or you die like a toy. Part of me enjoys the moment of victory. But deep inside it hurts to witness my victim's misery. I wonder if this young upstart has it in his heart. He does not know soon from his body his spirit will depart. As I rip his flesh apart like a shark, leaving his consciousness floating in the dark. This is the art of war, rite of passage. As we are introduced to the audience, my entire being is subdued by calmness. Him not knowing his fate attempts to intimidate using the primitive tactic of the screw face. Aggressive gestures never could replace the effect of a well-placed strike. And tonight, this fact I will bring to light. He lunges, I sidestep. Then christening his brow with a thunderous left. What comes next is a puncture to the neck, small as a paper cut, but fatal enough for this battle to be minutes from being finished. The laughter of the maidens has made him rather angered. I sense the danger from his mouth, he spits a razor. My leg is grazed by his blade, but I know the wound will heal within 7 days. Trin Dragon seeks Pearl. My advance Bilge strike lights up his world. The crowd screams, my opponent now seems punch drunk, swinging mildly at the monk. I avoid each blow untouched. He stumbles blindly to find me. He misses me entirely. Now he curses the god that created me. His words are worthless. He should have worked harder in training by the passage. The neck wound soon gushes. This fool suffers humiliation courtesy of a master. If it had not been for compassion, he would have died much faster. The crowd is a frenzy of bloodthirsty maniacs. They have not been quiet since my first divine attack. The combat has reduced to a game of cat and rat. Lab Tech, the champion, remains relaxed. My prey has succumbed to fear and dismay. The stakes are high in this little game we play. Rather than chase him all over the stadium, I corner him. He begs for his life as the spectators scorn him. I ask if anyone warned him of the risk involved with this sport, knowing there was a bit of justice in this court. Looking into his eyes, I see the remorse. I step back, the crowd is hushed. The sky is cracked at the sound of my voice. This child is surely unworthy to die the death of a warrior. I will not stand my hands with the influence of a babe. Perhaps he could serve the queen as a slave. Just as I gave this fool mercy, he leaps in an attempt to murder me. The crowd gasps in amazement. His attack is anticipated and evaded. Then by my blade, he is swiftly decapitated. As the crowd screams, I utter these decrees. It's better to die on your feet than to live on your knees. This is the art of war, rite of passage. Boom, buddy. Boom, buddy. Boom, buddy. Boom, buddy.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet. Mmh.